Bonjour et bienvenue au balado « Tracer des voies d'avenir au Centre de services scolaires du Pays des Bleuets ». Aujourd'hui, pour l'épisode 11, nous allons avoir deux sections, dont la première, « Travailler au service aux entreprises ». Je suis Marie-Ève Bernard, conseillère en communication, et je suis accompagnée de M. Nick Saint-Pierre, directeur au service éducatif des adultes, ainsi qu'au service aux entreprises. Bonjour M. Saint-Pierre.
Bonjour Mme Bernard.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter le rôle et la mission du service aux entreprises du Pays des Bleuets?
En fait, le service aux entreprises, on est là pour accompagner les entreprises, les organisations ainsi que leurs équipes via des services et des formations adaptées aux réalités. Avec le personnel du service d'entreprise, ce qu'on fait, c'est l'analyse des besoins de l'entreprise pour ensuite soit opter pour de la formation sur mesure, de la formation de base en entreprise, ou de la formation courte, parce qu'on offre aussi des AEP, des attestations d'études professionnelles, selon le besoin, c'est-à-dire de l'entreprise. On fait aussi le lancement d'une entreprise et le transfert d'entreprise via l'ASP, reconnu par le ministère en ce sens. On fait aussi du coaching, de l'évaluation, de la reconnaissance des acquis et des compétences. On fait également de la francisation en entreprise. On a accompagné déjà plusieurs entreprises là, dans ce domaine. Puis, on travaille énormément en collaboration avec des partenaires ainsi que des différentes organisations du milieu et autres, c'est-à-dire provincialement, entre autres Service Québec, Centre local de développement, la SADC, les différents comités sectoriels là, de la province pour lesquels là, on est associé dans différents projets de formation.
Donc, vous parlez d'organisations, d'entreprises privées, parfois de travailleurs autonomes ou même de personnes là, qui veulent acquérir un AEP pour progresser dans leur carrière. On peut vraiment dire que le SAE dessert une clientèle très variée.
La clientèle est très variée. Principalement, effectivement, c'est des gens qui viennent du milieu de travail. Donc, déjà des travailleurs qui viennent rehausser leurs compétences et ou parfaire leurs connaissances ou en acquérir de nouvelles. Ça varie beaucoup, là, je vous dirais, là, entre autres au niveau des AEP, on peut avoir des jeunes là, de 16, 17, 18 ans comme des personnes de 45 ans et plus. Je ne dis pas qu'ils sont vieilles, mais il y a quand même une plage d'âge qui est quand même considérable.
Au-delà des entreprises, je crois que votre service travaille aussi étroitement avec plusieurs organisations communautaires et publiques. Pouvez-vous nous en dire plus?
Effectivement, on travaille en étroite collaboration, entre autres, avec Service Québec pour établir des projets de formation ou pour soutenir les petites PME du secteur, ne serait-ce que pour le numérique, la gestion des ressources humaines, le développement des compétences administratives. Donc, Service Québec est un partenaire de choix pour nous. On travaille aussi avec différents comités sectoriels de la main-d'œuvre, qui est non négligeable aussi. Entre autres, on a Formabois, avec lesquels on a développé des projets de formation sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises en transfert des bois. Dernièrement aussi, parallèlement à ça, on a offert une formation, ça fait 2 ans qu'on offre une formation d'AEP en fabrication de portes et fenêtres pour répondre justement aux besoins des entreprises. C'est associé avec le comité sectoriel du domaine pour offrir une formation personnalisée, un AEP à cette clientèle-là. On travaille aussi avec le SADC. Donc, on a bâti des ateliers là, pour justement offrir des perfectionnements aux entreprises là, partenaires du secteur. Donc, les entreprises communautaires, le service d'entreprise fait beaucoup là, de partenariats comme ça avec différentes organisations.
Et si on se concentre principalement sur l'équipe du service aux entreprises, quels sont les types d'emplois qu'on y retrouve?
En fait, au service aux entreprises, comparativement au centre de services scolaires, nous, c'est des formateurs. Étant donné que c'est de la formation sur mesure, on n'est pas associé à un programme d'études, exemple un DEP en abattage, façonnage des bois. Nous, c'est vraiment selon le besoin de l'entreprise. Donc, on a des formateurs qui sont à l'emploi même du service aux entreprises et aussi on a des ressources pour lesquelles on fait appel sous forme de contractant. C'est-à-dire, dépendamment du besoin, on peut aller y chercher à l'externe des ressources spécialisées dans un domaine précis. Mais sinon, c'est des formateurs. On a aussi également des agents de développement, ce qu'on appelle chez nous des gestionnaires de projet. C'est des professionnels qui ont comme responsabilité d'analyser le besoin, d'accompagner les entreprises pour la recherche de financement et de gérer leurs projets de formation, en fait. Là. Ça va du recrutement des ressources, organisation de la formation en milieu de travail ou autre. Puis, on a aussi le personnel de soutien, donc différentes catégories de personnel de soutien à l'intérieur du service d'entreprise. Gestionnaire, donc direction et coordination aussi au sein de l'équipe du SAE.
Quelle est la particularité de travailler au SAE et quelle est la différence avec les autres milieux du centre de service scolaire?
Une des particularités, c'est peut-être le fait qu'on soit une petite équipe. On est environ une quinzaine de personnes au service d'entreprise, toutes catégories de personnel confondues. Pour pouvoir faire la distinction, lorsque j'étais à la direction de la formation professionnelle où il y avait plus d'une centaine de personnes, je dirais que ce qui nous amène à avoir cette gestion qui est différente. Je dirais que c'est une gestion qui est plus une gestion humaine des ressources qu'axée sur la gestion des ressources humaines. Ça nous permet d'être plus à l'écoute. Je dirais aussi que le rôle du gestionnaire est beaucoup plus d'épauler les employés, de s'assurer d'une présence, d'être là pour les employés, les gestionnaires de projets, s'ils ont des défis particuliers. Donc, c'est des accompagner à la recherche de solutions. La souplesse de la structure organisationnelle. Il y a eu la pandémie, on a adapté le télétravail, mais on va plus loin que ça. On va aussi à l'ajustement des horaires pour permettre un horaire de travail flexible. Entre autres, conciliation, travail, famille. On est beaucoup basé sur l'autonomie professionnelle, que ce soit au niveau du personnel de soutien, au niveau du personnel professionnel. Il n'y a pas juste une bonne solution. Puis, je pense que ce qui fait que ça va bien comme ça au service d'entreprise, c'est toute l'implication de chacun des membres du personnel, puis de leur permettre d'avoir une autonomie professionnelle dans la gestion de leurs dossiers propres à eux. Je pense que ça nous démarque quand même passablement. Puis souvent, je fais remarquer qu'on a une gestion qui est beaucoup plus linéaire plutôt qu'en mode pyramidal. Régulièrement, on se rappelle tout et chacun que si on sort un employé, peu importe la catégorie de la ligne, bien c'est comme une chaîne là, qui perd une maille, bien ça ira pas bien. Ça fait que ça, je pense que c'est un peu ce qui nous démarque, effectivement.
Est-ce qu'on retrouve des caractéristiques ou des intérêts communs parmi les membres du personnel du service aux entreprises?
Je pense que le travail d'équipe est excessivement important et c'est ce qui nous a amené il y a quelque temps déjà à changer un peu notre gestion. C'est plus une gestion, je dirais, de cible organisationnelle que d'une cible individuelle. Ben, le but était de faire tomber la compétition, je dirais, qui aurait pu s'installer entre différents membres de l'équipe. Moi, j'ai vendu plus d'heures ou autre. On n'en est pas là, on est vraiment dans le travail collaboratif. Puis, c'est excessivement, je dirais, payant pour l'organisation dans le sens que chacun a un sentiment d'accomplissement, je pense, personnel qui est associé à tout ça. Peu importe le résultat, que ce soit un gros ou un petit projet, c'est vraiment une gestion qui est axée sur les résultats globaux. Donc, je pense que ça, c'est important. Le travail entre les différentes structures, je pense entre autres au personnel de soutien, on a une secrétaire de gestion qui... est responsable un peu de l'ensemble des tâches administratives qui, lorsque il y a un nouvel employé ou une nouvelle personne au sein d'administration qui fait son intégration au sein du service, c'est tout l'accompagnement qui est offert par cette dame-là. Je dirais que c'est la collaboration puis le travail d'équipe qui se démarque vraiment.
Et de ce que j'ai l'air à en comprendre, c'est un milieu où chacun peut apporter sa couleur et apporter sa contribution concrète là, à l'organisation.
C'est effectivement le cas, puis c'est ce qui fait qu'on est rendu là présentement, parce que l'équipe a quand même grossi. C'est la part de tout et chacun avec leur expérience personnelle, leurs compétences, qui fait qu'on est en mesure de répondre aux besoins du marché du travail puis d'accompagner les entreprises dans le développement de leurs compétences.
En terminant, pouvez-vous nous dire en quoi c'est valorisant de travailler non seulement auprès des entreprises, mais aussi de la clientèle adulte qui vient chercher des nouvelles formations?
En fait, de façon générale, je vous dirais que c'est pour le développement général, c'est-à-dire socio-économiquement parlant. Je pense qu'on apporte un plus-value aux organisations, on leur permet de croître. En lien avec l'individu, je pense que c'est la reconnaissance. De travailler avec la reconnaissance de ces gens-là qui viennent chercher que ce soit une formation courte, formation sur mesure, un AEP avec une diplomation, c'est de voir toute la fierté de ces gens-là qui les accompagnent lorsqu'ils réalisent là, leur projet de formation. On termine présentement un projet de formation de 800 heures. C'est des gens qui vont être qualifiés pour travailler dans un milieu de travail spécifique, avec des compétences spécifiques, puis vont accomplir leurs tâches puis progresser à l'intérieur de l'organisation. Dans son ensemble, là, c'est un peu tout l'accomplissement général là, qui fait que je pense que tous les membres de l'équipe en retirent une satisfaction.
Merci beaucoup, M. Saint-Pierre, pour toutes ces précisions. D'ailleurs, on rappelle que pour les gens qui veulent en savoir plus, le service aux entreprises a son propre site web au www.votresae.ca et est également présent sur les réseaux sociaux. Merci, M. Saint-Pierre.
Merci à vous.
Pour la deuxième partie de l'épisode 11, il sera question de recrutement international. Je suis accompagnée de Mme Nadia Tremblay, directrice du service des ressources humaines. Bonjour, Mme Tremblay.
Allô, Marie-Ève.
Et de Mme Cynthia Potvin, attachée d'administration au service des ressources humaines. Bonjour, Mme Potvin.
Bonjour, Marie-Ève.
Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir recours au recrutement international?
Il faut comprendre qu'on est fortement touché par la pénurie de main-d'œuvre au sein de notre organisation, tout comme d'autres entreprises un peu partout, que ce soit au Québec ou dans le monde. Donc, dans le contexte où on a des besoins criants dans notre organisation, dans différents secteurs, on doit se tourner vers le recrutement international. Il faut comprendre qu'il y a de moins en moins de finissants aussi là, au niveau des cégeps, universités, et même un diplôme d'études professionnelles. Donc, ce qui nous pousse à aller explorer un autre bassin là, de main-d'œuvre. La première mission pour laquelle on est déjà en cours de démarche actuellement, donc, va se faire à Paris. Actuellement, bon, c'est ça, il y a déjà des entrevues qui ont eu lieu. Il y aura une mission là, pour laquelle cet automne, Cynthia et moi-même allons aller rencontrer là, des candidatures potentiellement intéressantes pour venir occuper des fonctions chez nous à titre de personnel enseignant et également au niveau de la psychologie.
En quoi ça consiste et comment ça fonctionne, le recrutement international? J'imagine que c'est pas parce qu'on décide de se lancer que c'est facile comme ça. Il doit y avoir plusieurs étapes.
Effectivement, c'est sûr que le recrutement international amène une dose de complexité un peu plus élevée. Donc, il y a des organismes qui sont spécialisés dans le recrutement international. Pour les régions comme la nôtre, c'est la Société de développement économique de Drummondville qui va mettre en place des missions de recrutement international dans le cadre de ce qu'il appelle la Journée Québec. De notre côté, c'est une mission qui a lieu du côté de la France. Journée Québec, c'est un événement qui dure une semaine où les candidats français ont accès à différents affichages de postes qui sont disponibles au Québec. Donc, tout au long du processus, les gens de la Société de développement économique nous accompagnent, nous expliquent comment ça va fonctionner, nous préparent à chacune des étapes, nous mettent en contact avec des spécialistes en immigration, en recrutement international, nous expliquent les fonctionnements, les lois, les règlements, les ententes qui existent. Et ils vont nous accompagner aussi dans l'élaboration de nos affichages de postes. Et naturellement, nos affichages de postes doivent être différents de ceux qui sont faits ici. Les besoins ne sont pas les mêmes du côté des Français, donc il y a des particularités qu'on doit absolument inclure dans nos affichages de postes qui ne sont pas compris normalement chez nous. Pour planifier nos affichages de la bonne façon, on a du support, oui, des gens de la Société de développement économique. Dans notre cas, les affichages qu'on a présentés sont pour des postes d'enseignants et de psychologues. Du côté de ces corps d'emploi-là, il y a d'autres particularités. Il y a des qualifications très précises et il faut arriver à faire le comparable entre la qualification de là-bas versus la qualification d'ici. Donc, pour ça, on implique également des organismes locaux, régionaux, comme entre autres l'Ordre des psychologues ou le ministère de l'Éducation. Donc, pour s'assurer que les critères qu'on va établir dans nos affichages vont correspondre à ce qui est exigé ici et ce qui va pouvoir passer dans le processus par la suite. Donc, les candidats vont pouvoir consulter nos offres d'emploi, vont pouvoir poser leur candidature et une fois le processus de présélection terminé, nous allons avoir dans notre plateforme la liste des candidats qui ont réussi la première étape de présélection. Par la suite, on peut consulter leur dossier, leur curriculum vitae, leur diplôme et on peut planifier des entrevues qui se font naturellement par team au départ.
Vous pouvez donc compter sur le support d'organisations et d'experts afin de vous assurer de la qualification des candidats, c'est intéressant.
Oui, effectivement. Et on a également le support d'organismes locaux aussi, comme la MRC, les deux MRC, en fait, dans notre cas, MRC Domaine du Roi, MRC Maria Chapdelaine. On a également Porte ouverte sur le lac, on a Place aux jeunes. Donc, il y a différents organismes d'ici qui vont nous supporter aussi, nous accompagner, en plus des conseillers régionaux en immigration et des tables de concertation régionale en immigration. Et on a la chance aussi de faire du réseautage avec d'autres entreprises qui ont expérimenté le recrutement international. Donc, par le partage des expériences, on a beaucoup d'informations qui peuvent nous servir à peaufiner notre processus également.
Quelles sont les étapes du processus de sélection des candidats de l'international?
En fait, il y a différentes étapes qui ont été établies. Donc, la première étape pour eux, c'est vraiment de poser leur candidature via la plateforme Journée Québec. Par la suite, il y a une semaine où on a le processus d'entrevue qui débute. Dans la plupart des corps d'emploi, d'employés journaliers par exemple, il va y avoir une seule entrevue, après ça il y a signature de contrat. Dans notre cas, étant donné la complexité des formations et des processus là, au niveau là, des ordres professionnels à lesquels sont associés les corps d'emploi, on a prolongé un peu le processus. Donc, on a la première entrevue avec le candidat. Entrevue qui nous permet de faire connaissance avec le candidat, mais aussi de voir qu'est-ce qu'il connaît, non seulement de notre pays, de notre province, mais aussi de notre région. Qu'est-ce qui l'attire chez nous? C'est quoi ses motivations à vouloir venir intégrer notre organisation puis notre région? C'est quoi ses objectifs? Donc, ensuite, on va vouloir aussi aller discuter avec lui ses expériences professionnelles et vérifier certaines informations. Finalement, après la première entrevue, il y a la correspondance qui se fait avec le candidat où on va, entre autres, lui demander là, de la documentation complémentaire pour alimenter son dossier, pour nous permettre de procéder à des vérifications supplémentaires. Donc, pour les candidats qui seront retenus suite à la première entrevue, ils vont être rencontrés à nouveau dans une deuxième étape d'entrevue où là, on va aller avec des questions un petit peu plus spécifiques en lien avec l'emploi recherché par le candidat. On va encore quand même reposer des questions sur les connaissances générales de la région et tout ça. À chaque étape, on ajoute des membres au comité de sélection pour avoir un regard différent, un regard neuf sur le candidat. Finalement, un coup que la deuxième entrevue est complétée et réussie, les candidats qui seront retenus recevront encore de l'information, de la correspondance, nous répondrons à leurs questions. Et finalement, l'objectif pour nous, c'est de procéder à une troisième entrevue, mais en présentiel cette fois-ci, donc de là, la rencontre là, en Europe, pour aller discuter avec eux, mais également en profiter pour faire connaissance avec la personne et sa famille. Donc, on veut vérifier ce processus-là, est-ce que c'est un projet familial, est-ce que c'est un projet individuel? Le candidat, quand il va s'en venir ici, est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec lui qui vont être à la recherche d'un emploi également? Est-ce que ces gens-là pourraient répondre à d'autres besoins qu'on a dans notre organisation ou est-ce qu'ils pourraient répondre à des besoins qui sont présents dans d'autres entreprises de notre région? Et là, on va se servir de notre réseautage pour maximiser les chances de placer ce conjoint ou cette conjointe-là, les accompagner dans tout ce processus-là pour faire en sorte que le candidat, il va venir, mais accompagné. Donc, on va être capable d'aller chercher à ce moment-là deux travailleurs. Mais on veut surtout s'assurer que ce qu'on a à offrir au candidat correspond à ce qu'il recherche et que lui correspond à ce que nous recherchons aussi. Donc, c'est la troisième étape. Par la suite, là vient tout le processus administratif. Donc là, il y a des experts qui nous accompagnent pour faire les demandes là, de visa, de permis d'enseigner, de permis probatoire d'enseigner, effectivement. On doit analyser les dossiers, on doit leur mentionner s'ils ont des formations complémentaires à faire pour être en mesure d'exercer leur travail.
On mentionnait tout à l'heure que le recrutement international apporte une dose de complexité supplémentaire au recrutement. C'est ce qu'on peut constater là, quand on voit les différentes étapes. Est-ce que vous pouvez nous dire si le processus est long, toutes les étapes qu'on a détaillées, et s'il est réalisé par le centre de services scolaires ou par d'autres partenaires?
Bien oui, effectivement, Marie-Ève, c'est un processus qui est quand même long et complexe. Donc, on peut parler d'une durée approximative de 8 à 10 mois là, entre le moment où on fait le processus de sélection et l'arrivée des candidates et des candidats au sein de notre organisation. Actuellement, on est dans nous sommes dans les démarches pour justement être en mesure de recruter des candidatures tout au long du processus. Hein, vous savez, là, il y a les entrevues, mais il y a l'après-entrevue entre le moment où le processus est complété. Donc, pour lequel on va justement, les candidats vont signer des contrats d'engagement pour venir travailler au sein aussi de notre organisation. Donc, en ce moment-là, puis le moment où ils vont arriver chez nous, c'est important aussi de conserver un contact avec eux. Donc, au niveau de notre organisation, on a un bout qu'on doit faire également. Donc, on a des démarches à faire. Mais également, là, tout à l'heure, ma Cynthia le disait, on a la possibilité d'être accompagné par différents organismes aussi qui vont être capables de bien guider ces nouvelles ressources. De les accompagner. On pense, entre autres, que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit au niveau des inscriptions des élèves là, dans les écoles, les particularités des municipalités pour lesquelles ils vont s'établir également. Dans la période pour laquelle là, ils vont être en attente avant de s'en venir au sein de notre organisation, pour nous, c'est important aussi là, de leur transférer un maximum d'informations sur c'est quoi notre organisation, C'est quoi les différentes municipalités, les services qui sont desservis aux endroits où ils vont aller s'installer, les activités qui existent. D'être capable aussi de répondre à leurs questions là, en attendant que les candidatures s'en viennent définitivement là, au sein de notre organisation. Vous savez, l'objectif premier, c'est d'être capable d'aller chercher des candidatures qui sont prêts à venir s'installer dans notre belle région, dans notre beau coin de pays, et qui sont prêts à rester. Hein. On mise sur la durabilité aussi de nos ressources. L'objectif, c'est de faire un accueil et une intégration de ces ressources-là, de façon à ce qu'ils soient accueillis positivement au sein des différents établissements scolaires. Parce que pour eux, c'est quand même un changement important, changement de culture, changement de milieu. Donc, on va tout faire pour être capable de bien les encadrer puis de bien les accompagner.
C'est ce qui met fin à l'épisode 11 du balado « Tracer des voies d'avenir au Centre de services scolaires du Pays des Bleuets ». Retrouvez-nous pour le prochain. Merci et au revoir.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télé-Duo du Lac.